Le premier président de la Cour suprême de justice salue le dynamisme de la Cour et du parquet dont le travail est selon lui jugé satisfaisant en 2016. Il a dit le week-end dernier au cours d'une cérémonie d'échange de vœux à Kinshasa avec les magistrats. Jérôme Kitoko refuse de reconnaître que toute poursuite engagée contre un homme politique est un procès politique. De son côté, le syndicat des magistrats du Congo, SIMCO, dénonce la léthargie de la hiérarchie qui ne se préoccupe pas selon lui des conditions de vie et de travail des magistrats. Comment analyser ces déclarations? Pour en parler, je reçois Thomas Oussoudi, conseiller à la cour d'appel de la Gombe, président de l'intersyndical des magistrats. Monsieur Oussoudi, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Maître Richard Bondo, bonsoir maître.
Bonsoir
Alain. Vous êtes avocat et président de l'ONG Avocats sans frontières RDC. Maître Ruffin Louco, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes avocat et chercheur en droits humains et écrivain. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le premier président de la Cour suprême de justice refuse de reconnaître que toute poursuite engagée contre un homme politique ou assimilé est un procès politique. Au cours d'un échange de vœux avec les magistrats de cette juridiction et ceux du parquet en présence du procureur général de la République, samedi dernier à Kinshasa, Jérôme Kitoko a salué le dynamisme de la Cour suprême de justice et du parquet dont l'exercice 2016 est jugé satisfaisant. Jeff Ngoy pour les détails.
Jérôme Kitoko demande le qualificatif d'infraction politique selon qu'il s'agit des poursuites des hommes politiques, notamment les opposants.
Les faits pour le faire d'une infraction des droits communs, d'être homme politique au pouvoir ou dans l'opposition, ne peut aucunement constituer les critères déterminants pour considérer que toutes poursuites judiciaires exercées à l'endroit de cette personne revêtent incontestablement un motif politique. C'est ici l'occasion d'encourager les magistrats à rester fermes.
En revanche, le président du SIMCO, syndicat des magistrats du Congo, plaide contre l'inaction de ses supérieurs hiérarchiques, Sulutani Kayumba.
Quelques mots sur la victimisation de magistrats à la suite des déficits de gouvernance, au dysfonctionnement et à la prise en otage de corps par les politiciens. Le magistrat bénéficie d'une rémunération suffisante à même de conforter son indépendance. Les magistrats n'en bénéficient rien et aucun effort n'est soutenu pour que tout ce droit soit effectif.
Le premier président de la Cour suprême de justice recommande ainsi aux magistrats à réfléchir à nouveau sur l'exercice de leurs fonctions et aux syndicats d'adopter une nouvelle approche de leurs actions syndicales avec tact.
Merci Jeff Ngoy. Thomas Oussoudi, vous êtes conseiller à la Cour d'appel de la Gombe, président de l'intersyndicale des magistrats. Comment vous analysez ce bilan 2016 dressé par le premier président de la Cour suprême de justice?
Merci pour la parole et je vous remercie pour autant aussi de l'invitation que vous m'aviez lancée pour prendre part à cette émission en ces débuts d'année. Et l'occasion faisant les larrons, je dois de prime abord présenter mes vœux le meilleur à tous les auditeurs de la radio de la paix. S'agissant du bilan dressé par le premier président de la Cour suprême de justice, je dois d'abord rappeler que la Cour suprême de justice est la juridiction de l'ordre judiciaire la plus élevée et que celle-ci fait office en l'état actuel des choses de la Cour de cassation et du Conseil d'État, c'est-à-dire les compétences dévolues à la Cour de cassation et au Conseil d'État sont assumées à titre provisoire par la Cour suprême de justice. Donc, il est tout à fait normal qu'au début de chaque année, comme cela est des traditions, même dans les assemblées parlementaires, qu'un bilan soit dressé sur l'activité déployée par l'institution concernée au cours de l'année écoulée. Alors, c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire ces bilans satisfaisants dressés par le premier président de la Cour suprême de justice. De deux, il faudra aussi rappeler que la Cour suprême de justice est la juridiction qui exerce un contrôle de droit sur le jugement et arrêt rendu par des juridictions inférieures. Donc, de ce point de vue, le premier président a estimé que, au plan de nombre de dossiers reçus en pourvoi en cassation, auprès de cette juridiction, du point de vue de l'activité liée, par exemple, au filtrage des dossiers, et également du point de vue des arrêts rendus, donc par rapport à toutes ces affaires enrôlées et aux réponses judiciaires apportées, la Cour suprême de justice a estimé que l'activité était satisfaisante.
Là, c'est sur le plan qualitatif, Thomas Ochoudi, mais est-ce qu'on peut dire un mot sur le plan quantitatif? C'est plutôt l'inverse. C'était le plan quantitatif, mais est-ce qu'on peut dire un mot sur le plan qualitatif?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que c'est une juridiction de cassation. D'abord, principalement, la Cour suprême de justice, en l'état actuel des choses, fait office de la Cour de cassation. Il y a lieu de s'interroger, d'abord, pour dresser ses bilans par rapport au nombre de dossiers enrôlés, aux décisions rendues. Et il faut avouer que, de ce point de vue-là, il y a lieu de reconnaître qu'une activité judiciaire importante a été déployée à la Cour suprême de justice pour rendre cette activité beaucoup plus visible. La Cour suprême de justice publie même pratiquement chaque année le bulletin de ses arrêts. Il faut aussi reconnaître que c'est une activité déployée par des magistrats, parfois à la limite de leur force. Et la Cour suprême de justice a bénéficié de l'appui du parquet général de la République qui éclaire la Cour suprême par ses avis et qui prend aussi part aux plénières mixtes.
Donc, vous estimez également que sur le plan tant quantitatif que qualitatif, ce travail est satisfaisant?
Oui, ce travail ne peut être que satisfaisant, d'autant plus que nous qui exerçons dans des juridictions inférieures, nous nous inspirons de arrêts, des principes rendus par la Cour suprême de justice. Il y a des arrêts qui donnent des orientations de droit aux juridictions inférieures et des arrêts qui unifient pratiquement la jurisprudence à laquelle nous, des juridictions inférieures, nous nous référons. Donc, de ces points de vue-là, il est incontestable que l'activité déployée par la Cour suprême de justice, ainsi que nous l'avions entendu dans les bilans présentés, est largement positif.
Alors, quel est votre, j'allais dire, commentaire par rapport à cet aspect politique quand M. Jérôme Kitoko refuse de reconnaître que toute poursuite engagée contre un homme politique ou assimilé est un procès politique?
À ce sujet, M. Alain, il faut d'abord préciser que le premier président de la Cour suprême de justice a apporté un démenti scientifique pour contester cette opinion, justement, qui tend à attester que tout procès engagé contre un homme politique est un procès politique. Et à ce sujet, il faut d'abord faire un distinguo, qu'une infraction politique se distingue d'une infraction de droit commun, soit par rapport à son objet ou par rapport au mobile. Donc, à ce sujet, il y a, et je rappelle quelques notions connues de mes contradicteurs sur le plateau.
Très rapidement.
Il y a une conception objective fondée sur les critères matériels d'une infraction politique, et il y a une conception subjective fondée non pas sur les résultats de l'infraction au plan matériel, mais sur le plan du mobile, sur le plan psychologique.
En français, facile pour tous les auditeurs qui ne sont pas juristes, hein, comme tous autour de cette table, qu'est-ce qu'on peut comprendre?
En français facile, il faut dire qu'un homme politique peut commettre une infraction de droit commun. Et quand cet homme politique-là est poursuivi pour répondre des faits pénant en rapport avec une infraction de droit commun, ce procès-là n'est pas un procès politique.
Il faut le distinguer. Maître Richard Bondo, vous êtes avocat et président de l'ONG Avocats sans frontières RDC. Comment vous analysez ce bilan dressé par le premier président de la Cour suprême de justice?
Merci beaucoup, Alain. Vous savez, lorsque ce bilan est dressé, vous venez de nous donner un élément sonore de notre syndicaliste, ou aussi syndicaliste que le juge Uchudi. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dépeint le statut actuel de nos magistrats comme un statut délaissé pour compte. Mais lorsque vous lisez le bilan, combien positif de M. Kitoko, premier président. D'abord, il faut une mise au point. Est-ce que depuis le 18 novembre 2016, on peut encore parler de la Cour suprême de justice? Elle n'existe plus. Alors quand vous voyez un juge de ce niveau-là, en démission totale de ses responsabilités, au lieu de revendiquer que l'on mette en place la Cour de cassation dont il est censé être le premier président, il se gosse de se faire appeler premier président de la Cour suprême de justice inexistante depuis le 18 novembre 2016. Pourquoi? Dès la mise en place de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice était déjà amputée de sa qualité ou de ses prérogatives comme juge constitutionnel. Puis, on a promulgué la loi organique de la Cour de cassation. Et quand vous lisez l'article 92 de cette loi organique, elle dit que cette loi entre en vigueur à la date de sa promulgation par le président de la République. Nous sommes en 2014. Le conseil, la loi organique des juridictions de l'ordre législatif, a été promulguée par le chef de l'État le 15 octobre 2016. Et l'article 408, le dernier de cette loi organique, dit « Elle entre en vigueur 30 jours à dater de sa publication au journal officiel. » Et le journal officiel qui l'a publié le 18
octobre
2016. Avec cette conséquence qu'au 18 novembre 2016, la Cour suprême a cessé d'exister. Mais de quelle cour M. Jérôme Kitoko vient-il se présenter, même pour dresser un bilan, comme président?
Alors, comment vous expliquez cette forme de cacophonie que vous déplorez?
C'est-à-dire les gens aiment les honneurs et non le travail. Alors que dans dans son étude sur la politique positive, Auguste Comte dit « Nul n'a d'autre droit que de remplir son devoir. » En dressant ce bilan, je suis même déconcerté qu'un autre syndicaliste magistrat vienne vanter le bilan dressé par le premier président Kitoko. Mais que dit son collègue syndicaliste? Nous avons suivi un élément sonore ensemble. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le bilan dressé, c'est une façon pour M. Kitoko de faire des gorges chaudes de la précarité des conditions de vie de ses collègues magistrats.
Alors avant qu'on y arrive en profondeur, Maître Richard Bondo, revenons sur la notion de procès politique. Il y a à boire et à manger dans ce sens.
Vous savez, l'article 50 de la Constitution, dès le premier alinéa, article 150, alinéa premier de la Constitution, dit « Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux du citoyen. » Le politique, qu'est-ce qu'il fait? C'est émettre des opinions. Il est certes vrai que toute infraction qu'un homme politique peut commettre ne soit pas nécessairement politique. Mais lorsque le politicien est poursuivi pour ses opinions, comment on va qualifier ça? Parce que nous sommes dans un État démocratique. Un politicien, quand il est à la majorité, il est même un ange. Mais lorsqu'il exerce son droit, la libre expression, la libre opinion politique, député soit-il, sénateur soit-il, ministre soit-il, il est diabolisé. Et on se sert de la justice, surtout de cette cour suprême inexistante là, on se sert de ces juges
pour régler les comptes.
Merci
maître. Maître Ruffin Louko, vous êtes avocat et chercheur en droits humains et écrivain. Vous avez suivi le juge Thomas Otchoudi, maître Richard Bondo. Comment vous analysez ce bilan?
Bon, nous, merci d'abord pour l'invitation et puis permettez que ça fait un temps que je puisse souhaiter, n'est-ce pas, meilleur vœu à tous nos auditeurs et à tous les auditeurs du dialogue entre Congolais qui sont disséminés sur l'étendue du territoire national. Eh bien, bon, nous aurions aimé que ce bilan-là soit dressé par nos syndicats, n'est-ce pas, des magistrats, parce qu'ils sont plus ou moins juges, je parle de leur rôle, juges et nos partis, je m'explique. Les syndicats ont comme mission principale de défendre les droits des magistrats. Et ils sont plus ou moins, n'est-ce pas, étendus sur l'ensemble du territoire national. Et celle aurait dû nous dire si tout va très bien. Il y a quelques mois, j'ai stigmatisé l'absence totale de tout syndicat dans le scandale qui s'est passé à Lubumbashi. De la disparition des dossiers, de l'asile d'un juge pour avoir fait ceci ou cela.
Dans le dossier Katumbi.
Voilà, dans le dossier de Lubumbashi. Je n'ai pas vu, je n'ai ni entendu, ni vu aucun syndicat, ni nous donner un compte rendu, ni stigmatiser ce qui se passe de part et d'autre, dans un sens comme dans un autre. C'était le néant total.
Silence radio.
Silence total. Nous étions indignés là. Bon. Aujourd'hui, il y a un discours du premier président de la Cour de cassation et nous voyons encore le syndicat réapparaître. Nous reprochons très solennellement à tous les syndicats des magistrats d'être des syndicats de grade et de rester à Kinshasa. Des syndicats de grade.
C'est-à-dire?
Ça veut dire des syndicats pour lutter pour que les gens puissent être élevés en grade pour être. Les conditions des magistrats, ça fait maintenant 1-2 ans. Nous n'en voyons aucune action. Tous syndicats confondus. Bon. Samba et que son âme repose en paix. Nous n'en voyons plus d'action. Rappelez-vous de la crise des 1 600 $, les salaires des magistrats. Les magistrats qui m'écoutent maintenant, ils savent quel combat nous tous nous avons mené. Nous tous. Et les bons ici. Et les autres compatriotes. Pour que les salaires des magistrats quittent les 100 $ à francs congolais à l'époque. Pour arriver à 400. Et de 400 à 1000 quelques. L'histoire des 1 600 $, ils n'ont jamais réussi. Ce salaire a fait environ 2, 3, 4 ans à 1 200. Aujourd'hui, lorsque vous le calculez, il est maintenant à environ 700 $. Aujourd'hui, le salaire de presque tous les magistrats. Qui en parle? Qui en parle?
Donc les conditions des magistrats vont en se détériorant et personne n'en parle.
Lamentablement, ni syndicat, ni la hiérarchie, personne n'en parle. Les conditions de travail. Maintenant, on a créé beaucoup trop de nouvelles juridictions. Nous avons maintenant les tribunaux pour enfants, nous avons des tribunaux de travail, nous avons des tribunaux de commerce, et bien plus encore. Nous avons maintenant les conseils d'État avec toutes les juridictions administratives en bas qui en sont contenues. Nous avons la Cour constitutionnelle avec toutes les juridictions qui doivent être installées, notamment les tribunaux de paix qui vont régler les contentieux électoraux locaux. Eh bien, où sont les bâtiments? Je viens de faire des tours sur l'étendue du territoire national. Nos magistrats qui sont envoyés en province, rien n'a changé. J'ai dit ça solennellement, rien n'a changé dans les conditions de travail. C'est pourquoi nombreux ont refusé d'aller. D'autres sont partis, ils sont rapidement revenus parce que les conditions de vie... Non, c'est-à-dire nous aimerions que lorsqu'on dresse le bilan de la justice, ça nous concerne, nous tous, qu'on parle des conditions des nouveaux magistrats qu'on a envoyés en province pour animer les nouvelles juridictions, les bâtiments, les bureaux, le logement. et éventuellement les transports. Il y a des endroits où sont envoyés les magistrats, il n'y a même pas d'école pour leurs enfants.
Et donc,
situation donc est lamentable. Nous sommes restés presque les seuls qui en parlent, ça veut dire les seuls, le média, mais les organes chargés d'en parler, c'est le silence radio, comme vous l'avez dit. Les conditions des magistrats, ils sont restés les paras pauvres de trois pouvoirs. Vous n'avez jamais entendu parler les députés marcher. Vous n'avez jamais entendu parler les membres du gouvernement marcher. Regarde les coïboïques qui se passent, n'est-ce pas, à la CENCO. Ça, c'est l'exécutif. Mais le magistrat, le parapo, en termes de traitement, en termes de frais de fonctionnement, alors, la justice concerne nous tous. Et lorsqu'elle est misélée, et lorsqu'elle a des difficultés, nous devons tous, pour que tout le monde nous attende, la justice,
alors, maître, c'est le salut de la République. Ça veut dire que ce bilan est plutôt négatif.
Bon, je n'aimerais pas entrer dans les querelles d'analyse. Au moins.
Mais le tableau que vous avez dépeint est très loin de celui dont parle le premier président.
Non, parce que le bilan dont il parle, notamment, c'est la contestation de l'action de la justice en ce qui concerne les infractions politiques. Mais là, nous avons un bilan. Nous avons des statistiques. Nous aurions aimé que ça soit des statistiques. Le parquet, nous avons dit, le parquet général de la République, c'est le sali de la répression. Le parquet, je parle du parquet général de la République. Parce que la plupart des criminels du pays sont recrutés parmi les grands responsables. Nous avons réclamé l'action du parquet général de la République dans l'affaire du FPI. Des ministres qui ont pris des millions au FPI et ils ont effondré l'entreprise. Public, chargé, n'est-ce pas, chargé de prendre en charge, de soutenir les petites et moyennes entreprises. Ils ont pris des millions de dollars et ils n'ont rien fait. À la limite, on a appris qu'ils ont acheté quelque chose en Afrique du Sud, en Europe et consorts. Donc pour dire, nous attendons que la justice ne s'arrête pas uniquement à faire un bilan, mais que nous puissions sentir que non, ceux qui gèrent sont contrôlés par la justice.
Merci maître, je voudrais donner la parole.
Et ça c'est très important pour toute la République.
Juge Otchoudi, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Moi c'est Pepe Lisungi Botomoito, je vous appelle depuis la province de la Tchopo à Kisangani. Avec les différents rapports des ONG, tant nationales qu'internationales, sur le fonctionnement de la justice en RDC il y a plus de 5 ans aujourd'hui, faire ce genre de déclaration, le premier président de la Cour s'est basé sur quel rapport de ses services, les rapports des ONG, tant locales qu'internationales, ou des politiciens qui les ont mis au travail, à qui, à mon avis, les ont servis à 80%. Mais ce n'est pas une déclaration de trop et distractif dans un pays où le taux de l'impunité et le clientélisme augmentent du jour au jour. Le dernier rapport de la CAJ, de Human Rights Watch et de la section du droit de l'homme de la MONUSCO en est un exemple typique.
Juge Otchoudi, qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, écoutez, il ne faut pas apporter la confusion sur les thèmes que nous débattons. Quand je parlais du bilan de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République y attaché, il était question d'abord de souligner que cette Cour-là, qui fait office aujourd'hui de la Cour de cassation, même si l'éclatement n'est pas encore effectif, mais il y a la Constitution de la République qui confère à titre transitoire ses attributions à la Cour suprême de justice. Donc, elle doit exister en entendant l'installation effective. Et cette Cour suprême de justice, faisant office de la Cour de cassation, pour répondre à la question de l'auditrice, est justement, comme on l'a souligné tantôt, l'institution judiciaire suprême qui a pour mission, ou qui est investie de la mission, de contrôler l'exact application du droit par les tribunaux et les cours d'appel, garantissant par là une interprétation unique de la loi. De ce point de vue-là, la Cour suprême a présenté son bilan. Maître Bondo peut-il me dire qu'il n'y a pas de plénière tenue à la Cour suprême de justice? Peut-il me dire qu'il n'y a pas des arrêts rendus en matière de cassation? Peut-il, attendez M. Alain, me dire qu'il n'y a pas des arrêts rendus dans d'autres matières? Alors, la confusion ici, c'est que, faisant le procès de cette justice, certes, il y a des problèmes, je suis syndicaliste,
c'est ce qu'ils ont dit, Maître Bondo.
Ce n'est pas dans les médias, forcément, les syndicats ont des canons
des communications. Il y a de passerelles de communication avec les autres pouvoirs. Nous avons deux cahiers de charges. Il ne suffit pas qu'un syndicaliste qui a pris la parole, encore que ce syndicat n'a pas d'existence légale, crie pour qu'on croie que les autres syndicats sont amorphes, alors que toutes les revendications de magistrats, au plan salarial, les conditions de vie, les conditions matérielles, les conditions d'exercice même de leur métier, comme l'a si bien dit Maître Loco, tous ces problèmes sont posés. Mais il y a un cadre pour les résoudre, et je termine par là. L'urgence aujourd'hui, c'est de convoquer les conseils supérieurs de la magistrature, ne serait-ce qu'en sa session ordinaire d'avril, qui est une session légalement prévue au premier lundi du mois d'avril. Peut-on comprendre que toutes les autres institutions qui sont des assemblées se réunissent à des dates prévues, soit dans la Constitution, soit dans leur règlement, et que les conseils supérieurs ne se réunissent pas faute de moyens? Mais c'est à cette occasion que tous ces problèmes sont posés, alors, et des solutions pourront être trouvées.
Alors, Juge Otoudi, le syndicat auquel vous faites allusion, SIMCO, dénonce notamment la victimisation des magistrats à la suite du, je cite, du déficit de gouvernance et à la prise en otage du corps par les politiciens. Qu'est-ce que vous en dites?
En fait, SIMCO a parlé par un de ses responsables, hein, dans un discours, permettez-moi l'expression, incompréhensible, illisible, mais sur ce point, je dois dire que
la politisation de la justice est illisible, selon vous.
Non, nous sommes du syndicat Justice Indépendante. Nous ne pouvons pas comprendre que la politique, par exemple, donne des injonctions au pouvoir judiciaire. Nous ne pouvons pas comprendre aussi.
Théoriquement, oui, mais dans la pratique, c'est ça qui se fait, selon le syndicat.
Permettez-moi, nous pouvons aussi comprendre que des politiciens, dans des styles quelque peu poétiques, parlent des personnalités emblématiques là où il y a des décisions judiciaires qui sont rendues, alors que quand des décisions judiciaires sont rendues, on peut peut-être à la rigueur faire recours au droit des grâces que peut exercer le président de la République. Nous ne sommes pas dans des procès civils où il peut y avoir des arrangements particuliers. Mais quand il y a des décisions judiciaires rendues à la suite des procès, qu'importe la personne poursuivie, peut-on croire que ce par des arrangements particuliers, là, c'est un recul. Nous sommes un syndicat dénommé Justice Indépendante. Merci. Nous ne pouvons pas l'accepter. Les choses doivent se passer suivant les règles constitutionnellement et légalement établies dans notre pays.
Merci, Juge Otoudi. Maître Richard Bondo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Maître Adrien Ilbakwe Ipero à Kananga, au Kasaï central. La justice congolaise est vraiment malade et elle est caractérisée par le monnayage des décisions, les trafics d'influence, la complaisance dans des prises de décisions, la formation et l'encadrement des magistrats n'intéressent personne. Tout le monde est préoccupé par l'argent et aussi les promotions. Raison pour laquelle nous estimons pour notre part qu'il est impérieux que la gestion de la magistrature soit retirée au Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il rentre au ministère de la Justice comme ce fut le cas pendant la Deuxième République.
Maître Bondo.
Merci beaucoup. Je pense que mon compatriote de Kananga a raison, sauf là où il finit. Parce que nous nous sommes battus, nous, depuis Mobutu, pour obtenir l'indépendance de la justice. C'est pour cela, malheureusement, que les syndicats, comme l'a dit Maître Loco sur ce plateau, les syndicats ont été silencieux, vraiment silence radio. Lorsqu'en 2011, lors de la révision à la hussarde de la Constitution, les magistrats du parquet redeviennent le bras séculier de l'exécutif. Aujourd'hui, même quand Kitoko parle là, le premier président Kitoko, lorsqu'il dit, il parle du parquet, mais le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire, ne fait plus partie du pouvoir judiciaire depuis la dernière révision à la hussarde de la Constitution en 2011. Parce que l'article 149 de la Constitution, en son alinéa 2, la Constitution du 18 février 2006, cette Constitution-là, à l'alinéa 2 de l'article 149, disait que le pouvoir judiciaire allait jusqu'au parquet près des juridictions citées. C'est-à-dire, on partait de la Cour constitutionnelle jusqu'à la, au Conseil d'État avec les parquets et les juridictions civiles et militaires avec leurs parquets. Donc, même les magistrats du parquet étaient, faisaient partie du pouvoir judiciaire indépendant de l'exécutif et du législatif. Mais, aujourd'hui, lorsque ces magistrats sont retournés à l'exécutif, mais ils ne reçoivent que des injonctions. Le ministre de la Justice est devenu leur patron. Alors si jamais on commettait l'erreur de réviser la Constitution pour que les juges de siège redeviennent sous les injonctions du ministre de la Justice, ce serait un recul. Alors pour moi...
Et donc, Maître Bondo, à ce niveau-là, notre loi telle qu'elle est, elle est formulée, elle facilite la politisation même de la justice.
Tout à fait, parce que, mais moi, il n'y a pas deux semaines, j'ai plaidé pour Franck Diongo à la Cour, je ne sais pas si elle était Cour de cassation ou Cour suprême de justice, parce que j'ai dit, moi, devant la Cour, j'ai dit, mais qui vous a nommé? Parce que pour que vous puissiez siéger comme juge, on doit vous nommer. Mais depuis le 18 novembre, vous n'existez plus comme juge. Alors c'est qu'en siégeant comme juge de l'honorable Franck Diongo, vous violez la Constitution à son article 149, alinéa 6, qui interdit les juridictions spéciales ou les juridictions d'exception. Les juridictions d'exception. Mais les juges ne les ont pas suivis. C'est pour cela que je dis, le compatriote a raison, sauf en ce qu'il voudrait que ou on retourne la justice au ministère de la justice. Donc les juges doivent maintenant dépendre du ministre de la justice, qui doit même les muter quand il veut. Aujourd'hui, pourquoi on a tué la magistrature? Ce n'est pas que nos magistrats prévariquent. Nous avons de bons juristes, nous avons de bons magistrats. Mais le problème, c'est leur précarité. Pourquoi il y a prévarication des magistrats? C'est parce que les magistrats aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de respecter les articles... je crois 6, 7 et 8 du statut des magistrats sur le signalement pour, en vue de la promotion des magistrats. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? C'est-à-dire, le responsable hiérarchique prend son neveu, juge de paix, c'est-à-dire à la catégorie 9. L'élève, comme conseiller, il devient son collègue à la cour d'appel.
Merci.
Alors le clientélisme est à la catégorie 3.
Le clientélisme.
Mais c'est le clientélisme.
Maître Loukoya, pour vous, cette réaction qui nous vient du Kassai Central.
Marcel, en tant qu'étudiant de deuxième licence droit au Kassai Central, tout procès contre un politicien n'est pas un procès politique. Parce qu'il faut d'abord faire le distinguo entre les infractions politiques et les infractions des droits communs. À l'ère de notre pays, si une personne veut faire valoir son opinion ou ses droits, vous verrez qu'elle sera poursuivie et condamnée par la justice sur base d'un procès d'intention. Pour terminer, je pose la question de savoir à quel moment un procès peut ou ne pas être considéré comme un procès politique.
Maître Louko, à quel moment un procès est-il ou pas politique?
Bon, Thalys, merci M. Marcel pour la question. C'est ce qui nous préoccupe maintenant. Notre combat avec tous les acteurs qui sont sur ces micros. Jérôme Bondo. Richard, je m'excuse. Il y a bon souci. Bon, cher confrère Bondo et Thomas Ochudi, nous sommes des acteurs de notre justice. Ça fait une vingtaine, trentaine d'années. Nous avons tous lutté, comme l'a dit Richard, pour l'indépendance de notre justice, parce que nous savons ce qu'il représente, ou ce qu'il représente pour la République. L'indépendance. C'est le salut de nous tous. Je me rappelle du témoignage de l'un des présidents du Conseil judiciaire. C'est qui? Joseph Singaoudjou. Au Parlement, lorsqu'il disait que non, c'est maintenant lorsque je ne représente plus rien du tout devant le Parlement. Il dit, c'est là où je réalise la fondamentalité du pouvoir judiciaire. Si je le savais à l'époque où j'étais président du Conseil judiciaire, j'aurais mis les colonnes, les bases, pour que ce pouvoir soit réellement indépendant. Lorsqu'on a voulu m'arracher ma ferme au Bandundu là-bas, au village, et que la seule personne qui pouvait me sauver, c'était un juge de paix, c'est-à-dire de la catégorie, la première catégorie d'en bas là-bas, du pouvoir judiciaire, alors j'ai réalisé l'importance des choses. Alors,
Lorsque la justice n'est pas indépendante, c'est donc le pouvoir exécutif qui décide de ce qui est procès de droit commun, procès politique à sa place. Lorsque nous avons appris que des magistrats ont contresigné, ont mis les signatures en bas d'une décision rédigée par des politiques, ça c'est l'effondrement total de la justice. Que des juges soient contraints à mettre une signature, d'avaliser, d'entériner une décision rédigée par un politique ou un fonctionnaire de l'État, quel que soit son poste. Et que ces juges-là viennent devant le public pour dire non, ils prononcent un jugement. Nous stigmatisons ces choses. Et lorsque nous avons encore appris que non, nous avons vu, nous sommes descendus au parquet de grande instance, nous avons vu un juge, président du tribunal de paix, d'Engaliama, être arrêté. Nous qui défendons les droits humains, tout ces temps, arrêté et mis au cachot comme un vulgaire messier. Nous avons eu la chair de poule. Président du tribunal de paix. Ça ne fait même pas quelques mois. Il a fallu que nous fassions tous la pression. Nous avons dit que ça, dans le cadre de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est inacceptable. Lorsque nous constatons aujourd'hui, je vais terminer par là, Alain, lorsque nous constatons aujourd'hui que les députés, leur salaire, c'est au-delà de 8 000. Les magistrats, les juges à la Cour constitutionnelle, c'est 9 000. Les ministres, c'est autant de 1 000. Et lorsque nous voyons la situation du premier des magistrats, c'est-à-dire le premier président de la Cour de cassation qui a parlé, il ne dépasse pas 3 000. C'était scandale. C'est-à-dire, il faut donc, voilà les vraies questions d'évaluation du fonctionnement de la justice. Voilà les vraies questions où le premier président et toute autre autorité judiciaire doit intervenir pour nous dire où en est-on.
Maître, alors, pour répondre clairement à Marcel Anganga, donc dans le cas d'espèce, en RDC, un procès est politique à la tête du client.
Ah bien, rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Et ça, comme on dit au village, que le malheur qui arrive à ton prochain est une menace pour toi-même. Donc ça peut atteindre toute personne. Ça peut atteindre tout. Et nous l'avons vu, ça fait une vingtaine d'années, nous avons vu que non, comme l'ont chanté nos musiciens, que les paniers circulent encore, donc ça peut
Merci.
Atteindre Aleirou, ça
Merci.
Peut atteindre Thomas Oudjoudi. Et nous, avocats, nous savons, chaque fois que nous défendons, ce qui était très fort, épouvantable hier, nous le retrouvons,
Merci,
avons
maître.
Été réduits à néant, et nous devons le défendre.
Merci,
nous
maître.
Demandons c'est pourquoi les gens ne tirent pas les leçons. Il faut donc que notre justice
Merci.
Demeure indépendante, et que cette indépendance, ce soit les magistrats du siège,
Merci, maître.
Les juges qui doivent les consacrer et l'exercer.
Justement, Oudjoudi, à un moment, il y avait, excusez-moi le terme, beaucoup de bruit autour du processus de réforme de la justice congolaise. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Bon, il faut dire hein, que nous, en tant que syndicalistes, nous accompagnons souvent les réformes. Il nous arrive de mener des actions de lobbying au Parlement autour des projets de loi qui sont initiés. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que ces actions de lobbying ou de plaidoyer ont payé. Et nous avons ce que nous appelons au niveau de notre syndicat un kit législatif pratiquement complet. Nous avons
les statuts
de magistrats depuis 2006. Nous avons la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons différentes lois organiques pour consacrer justement l'architecture judiciaire prévue par la Constitution, la loi sur l'ordre constitutionnel avec la Cour constitutionnelle qui fonctionne effectivement, et la loi sur les juridictions d'ordre administratif.
Mais tout ça c'est bien, mais oui. Le magistrat qui est l'acteur principal est oublié carrément.
De ce point de vue, c'est donc je conviens avec mes contradicteurs, et j'en suis reconnaissant à l'instar d'autres syndicats, c'est qu'ils ont porté nos voix, c'est-à-dire les revendications en rapport avec les conditions sociales du magistrat, nous les formulons toujours par plusieurs mécanismes. Il vous souviendra qu'autour de 1 600 $, nous avons été au Palais de la Nation en 2011 conclure un pacte, et il faut aussi reconnaître que nous, en tant que magistrats, nous avons des approches différentes dans nos revendications. Nous ne sommes pas un syndicat des ouvriers pour exposer des biceps devant le palais. Nous
Merci.
Exerçons un métier noble s'il y a à revendiquer.
Il y a une manière
un
de
pouvoir,
le faire.
Nous dialoguons
Merci,
avec
maître.
Notre pouvoir.
Merci,
aujourd'hui, nous voulons que le pouvoir qui gère les finances disposer ses finances pour convoquer les conseils supérieurs de la magistrature en sa session ordinaire, permettre de convoquer ces conseils et se battre de toutes tous ces les problèmes qui sont posés par Maître Richard et par Maître Louko.
Maître Bondo, pour vous, où est-ce qu'on en est par rapport au processus de réforme de la justice congolaise à ce jour?
Mais le juge Uchudi, le conseiller Uchudi, conseiller à la cour d'appel. Donc c'est un juge de la quatrième catégorie, voilà. Selon la loi.
Un
haut magistrat. Mais écoutez ce qu'il vous dit. Dès que les lois sont là, les textes sont là, pour lui, il est satisfait.
C'est déjà un pas.
Il est satisfait. Mais
c'est un pas.
Quelles sont les conditions dans lesquelles il travaille? Pourquoi on les accuse de prévarication? Pourquoi on dit que la justice au Congo n'existe pas alors qu'ils sont là? C'est des gens très bien formés. Moi, je m'incline toujours devant eux.
Nous avons bénéficié de la même bonne formation.
Tous. Mais, il y a un problème. C'est que, au lieu de poser la question, ils vous demandent maintenant que le pouvoir donne l'argent. Mais l'ordonnateur du Conseil supérieur de la magistrature, il s'appelle Jérôme Kitoko. Article 149, dernière alinéa de la Constitution.
On n'est pas encore doté de ce budget.
S'il vous plaît,
c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui prépare le budget et pour le faire intégrer
nous,
au Parlement.
Nous l'adoptons toujours.
S'il vous plaît, au budget général de l'État.
Vous allez répondre.
Lorsque vous démissionnez, vous voulez poser le problème à l'exécutif, c'est-à-dire que vous avez totalement démissionné. Parce que ce n'est pas l'exécutif qui va améliorer vos conditions. C'est vous, les magistrats, qui devez faire un budget. Vous le soumettez au gouvernement pour qu'il soit intégré au budget général de l'État. Mais lorsque vous ne le faites pas, l'Assemblée générale approche, maintenant vous demandez l'argent. Non, gouvernement, donnez-nous l'argent parce que nous avons l'Assemblée générale le premier lundi du mois d'avril. Mais vous avez démissionné.
En guise de conclusion, Maître Bondo, comment vous entrevoyez l'avenir de la justice congolaise?
L'avenir de la justice est simple. C'est lorsque il faut faire... Je donne la solution... Celle que nous a donnée Giscard d'Estaing. Jadis président de la République dit, gardons notre justice distante de la politique. Dès que cette justice est distante de la politique, la justice va décoller et ça sera le dernier rempart pour le peuple congolais, pour le citoyen congolais.
Maître Louko, le juge Ochudia tout à l'heure, que si j'ai les arrangements qui se font en ce moment, arrangements particuliers, personnalités emblématiques, tout ça, ça vient poignarder la justice dans le dos.
Bon, c'est-à-dire en principe, la justice devait être éloignée de toutes ces considérations-là. Donc, aucun citoyen n'a droit de s'arranger sur ce que la justice doit faire. Aucun citoyen. Et le magistrat, le juge devrait rappeler aux politiques par des décisions que vous n'avez rien à foutre. Par exemple, là, les accords, ceci, cela, OIA, Senko. Si un citoyen, comme la loi autorise à tout citoyen de saisir la Cour constitutionnelle, demander à la Cour de se prononcer sur le caractère constitutionnel de ces accords, lesquels des accords respectent la Constitution? Aucun. Donc ça veut dire tout simplement que nous avons ces déficits-là. Où est la justice? Vous vous rappelez de cette phrase? Les salis de la République, où est-elle? Méconnaissable. Méconnaissable, d'autant plus que lorsque ça les concerne, c'est nous, chercheurs, avocats et consorts, qui devons parler. Leur chef, hélas, protège leur poste. Nous leur disons, bon, quelles que soient les menaces, nous leur disons, les chefs, les syndicats ont disparu. Le salaire des magistrats doit être au même niveau que celui des députés. Rémunération et émolument, que celui des ministres.
En guise de conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir de la justice congolaise?
La Cour constitutionnelle nous a donné une jurisprudence que lorsque les juges ont refusé de signer, on les a répertoriés. Ceux qui ont refusé de signer, ce sont les professeurs d'université, les avocats, qui ne sont pas des magistrats. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on révise la Constitution.
Merci.
En ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature.
Merci, maître.
La société civile, les églises, les magistrats,
merci, maître,
les pharmaciens,
merci,
les médecins, puissent y entrer pour que les
dépendants soient. Merci, maître. Vous avez tout des conclusions.
Oui, je vais conclure en disant que la justice est l'élimination. Je conviens qu'il y a des problèmes, mais c'est donc je n'accepte pas que la justice soit otage des politiciens et que Maître Bondo, par exemple, ici, vienne relayer les opinions des politiciens qui sont déchaînées dans les médias. Tout à l'heure, avant de monter sur ce plateau, justiciable m'a dit, Dolly Lunga, je sais son nom, que lui du moins est satisfait de la manière dont la justice est rendue.
Merci.
Et que face aux décisions obtenues, la justice est exempte d'allégeance.
Merci monsieur, alors, cette émission est terminée. Bon, c'était le programme sur la radio de la paix. Au revoir à tous.